Eh bien, salut Baptiste, salut à tous, et de nouveau pour un petit épisode de Parlons Dev. Alors, disclaimer, j'ai les mains pleines de peinture. C'est parce que je change autant d'appartements que de framework JavaScript. Bref, pas d'inquiétude, tout va bien. J'aurais pu les laver, mais c'est peine perdue, honnêtement, ça ne tiendra pendant encore quelques jours.
T'as prévu de faire un bain de White Spirit prochainement?
Écoute, je vais me badigeonner d'huile d'olive,
C'est
bien
vrai.
provençale.
Ouais.
C'était l'huile d'olive de Yon.
De
De
nuance.
Nyon, de Nyons, des Nyons. Enfin, c'est un peu égaré de chez moi. Je ne me lave qu'à l'huile d'olive provençale au savon de Marseille. Enfin bref, du coup, pas d'inquiétude, j'aurai les mains un peu dégueulasses, je m'en excuse. Comment vas-tu, mon cher Baptiste?
Écoute, je vais très bien. Je te remercie. Je sais que tu nous parles du sujet d'aujourd'hui. Je suis sûr que ça va intéresser
Ah.
nos auditeurs aussi.
Bah écoute, j'espère en tout cas, si tu es là, c'est que toi aussi. Sinon
Je demande à
je...
voir pour l'instant. Je suis
Ok, très
sceptique.
bien. J'ai à peine la pression, je vois. Excellent. Bon, mais du coup, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je vais essayer de vous partager en tout cas une certaine forme de hype, mais qui est purement personnelle, hein, ça n'a rien de nouveau. Mais en ce moment, je m'intéresse pas mal à la spec OpenAPI, au API, en français du coup, qui est une spécification qui permet de décrire des API REST.
En français, ça se dit API ouverte, la spec.
C'est vrai, la traduction littérale, excusez-moi, c'est ton sang canadien qui ressort. Putain, je me rappelle plus de la phrase du joueur de hockey là. Je l'emmerde ton anglais, je crois. C'était ça. Enfin, je sais plus. Ceux qui
Oui.
ont la ref le savent. Mais enfin bref. Mais du coup, oui, l'API ouverte du coup, qui est open bar. Donc dernièrement, je m'intéresse pas mal à ça, à savoir tout ce qui va être code génération autour de tout ça, les leviers d'automatisation que peuvent procurer, autoriser, peu importe, débloquer une spec OpenAPI rigoureusement écrite, mais aussi ne serait-ce que l'état, enfin comment en tant que développeur front, peu importe même back en réalité, un développeur sera toujours quasiment exposé à une spec OpenAPI, même s'il ne le sait pas. Rapidement de l'historique, parce que je ne suis pas un expert de l'histoire de OpenAPI. L'idée, ça va vraiment être de partager un peu mon retour d'expérience et mon retour d'expérience en devenir sur ces sujets-là, parce que c'est des trucs que j'aborde de plus en plus sur des réfactors de grande envergure. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon cher?
Bah écoute, je suis pressé d'entendre cette nouvelle histoire de Père Popole. Tu vas nous
Ah
parler
ouais, excellent. C'est la
d'OpenAPI.
première et dernière fois que j'ai ce surnom, désormais. Père Popole. Ok, bon, bah écoute, je vais donc te raconter cette chère histoire. Bon, qu'est-ce que l'OpenAPI? En tant que développeur mortel, comme tout le monde, tu es déjà allé sur un Swagger. Tu vois ce que c'est qu'un Swagger UI même, à savoir que Swagger est l'ancien nom d'OpenAPI. Dans sa globalité, l'OpenAPI a trois versions. Je ne m'y connais pas du tout sur la première. J'ai itéré sur des specs 2.0 et majoritairement 3.0, à savoir que c'est réellement, de ma connaissance, je suis pas un expert de cette migration ni de cet upgrade-là, mais c'est vraiment un changement sémantique de cette specification. Et il existe des outils en ligne officiels d'OpenAPI pour faire ces migrations-là si tu veux. C'est-à-dire tu lui envoies ta spec 2.0, il t'en génère une 3.0. C'est vraiment un changement dans l'architecture du modèle de données. Surtout au niveau des security house, je crois. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans une spec OpenAPI? On retrouve une définition de API REST, donc description de route avec leurs méthodes, les paramètres, query, headers, pass parameters, peu importe. Et aussi une description, une signature de ces endpoints-là. Donc à savoir leur donnée en entrée et leur retour. Donc si on parle d'une response, ben, ça sera le body response. Et si on parle d'une requête méthode post, etc. Sauf si vous faites des get avec des body, écoutez, grand bien vous fasse. Il pourra y avoir ce genre de... C'est autorisé en tout cas, tu vois. La spec OpenAPI permet de faire ce genre de truc-là. Après, certains outils, non. Enfin bon. Aussi, dans cette specification, il y a plusieurs manières de faire les choses les plus idiomatiques et les plus propres. C'est vraiment presque un dôme, enfin c'est pas un langage, mais il y a des manières de, enfin il y a des leviers natifs à la spec qui permettent de la centralisation de schémas, de typage, de la mise en lien entre les différentes endpoints, savoir si on fait du CRUD assez basique. Bon, par exemple, lorsque un QA il va aller sur un Swagger, bah c'est cool quand même que lorsqu'il crée l'instance, ça puisse récupérer l'ID qui vient d'être créé, et ça peut faire de l'autocomplétion sur d'autres endpoints qui permettront peut-être d'update la data ou de la delete, enfin, etc. C'est en gros, tu peux avoir des workflows que tu décris dans ta spec qui peuvent être testés à la volée, etc. Et c'est vachement cool, surtout imaginons pour si tu fais des pentests un peu avancés et que t'envoies ça à une boîte externe, ça leur permet de comprendre un peu mieux ton cœur métier et pas avoir à chercher dans un swagger monstrueux. Ça, enfin bon, c'est toujours cool à avoir. C'est des outils qui existent et ça c'est assez récent, je crois que c'est même 3.1. Ça c'est vraiment les entrées links où tu peux faire référence à des modèles de données.
C'est quoi ça? C'est des outils externes que tu...
Pas du tout, non, excuse-moi. Là c'est vraiment des entrées natives à l'aspect OpenAPI. Mais l'idée, enfin, la plus-value que je vois dans l'immédiat, c'est déjà que tu puisses faire des liens entre tes endpoints et faire transpiler d'une certaine manière ton cœur métier dans une ordonnance, dans une suite.
Par exemple, dire que, je sais pas, une route get retourne, je sais pas, un utilisateur, user, tu définis son type et tu peux partager ce type dans plusieurs requêtes.
C'est ça. Mais là, dans l'idée, c'est pas, imaginons, tu crées une entité en base, du CRUD classique, sur un poste. Ben, soit ça va te permettre d'autocomplete avec les informations qui ont été créées, le request body d'un put, d'un update, ou ne serait-ce que d'un delete, etc. Pour avoir des successions d'actions qui font sens dans leur logique métier, quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est typiquement il y a plein de choses qui existent. Principalement ce qui est vachement intéressant ce qui m'intéresse le plus en tout cas dans l'aspect OpenAPI, bah c'est aussi le typage, c'est-à-dire que peu importe la stack de l'API qui fait tourner mon swagger, bah j'ai un point de data pivot spécifique qui est l'aspect OpenAPI et que je peux transpiler dans mon propre langage, ma propre stack, à savoir en règle générale, personnellement ce qui m'intéressait le plus c'est de générer des types TypeScript ou
pour le front
ou même d'autres services, typiquement des backend for frontend, des BFF ou en français, voilà. j'avoue, je sais pas,
backend pour frontend
d'ailleurs, oui, tu m'as envoyé un super article sur la recrudescence un peu de ce mouvement des BFF, à savoir rapidement, parce qu'on va quand même un peu aborder ce sujet-là après, le BFF vraiment va permettre de faire de l'agrégation de données entre plusieurs endpoints, et il existe même des outils d'autogénération de templates, on va dire, OpenAPI dans quasiment tous les langages, hein. Et même des trucs officiels, OpenAPI CodeGen, OPI Generator, qui permettent de générer, que ce soit côté client, mais aussi back, dans Spring Boot, en Go, enfin peu importe, vraiment toute l'architecture de base, avec les différents contrôleurs, etc.
C'est une spec OpenAPI, on fait tourner un outil dessus, et ça génère du code qu'on peut exécuter.
Alors c'est pas du plug and play, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même... coder la logique derrière, mais ça va vraiment instancier
tout ce qui... peut le faire, n'importe quel outil.
Il faut quand même le plugger à ce prompt-là. Mais non, c'est malgré tout un très gros avantage, surtout sur des migrations de stack, ou sur la création d'un MFF. Typiquement, imaginons, je crée un nouveau site qui va taper, je sais pas, 6 ou 7 API, pas toutes les mêmes routes, etc. Bon, bah dans ce cas-là, il faut faire un peu de tri. Et c'est là aussi qu'il y a une complexité intéressante, à savoir comment manipuler une spec OpenAPI de manière durable dans le temps, c'est-à-dire que comment tu fais pour par exemple enlever certains endpoints d'une spec OpenAPI pour ensuite la donner à ton outil de code gen pour ne venir générer que les endpoints dont tu as besoin dans ton BFF par exemple. Ça c'est le genre de complexité sur lesquelles je me suis intéressé, et à savoir pourquoi pas un éditeur en temps réel. Par exemple, tu vois ton swagger UI, bah plutôt que de pouvoir taper des endpoints, tu peux dire bon bah ça par exemple je veux le supprimer de ma spec. Et ça va te pondre en fait une spec OpenAPI qui je pourrais appeler trimée, stripée, peu importe, qui sera réduite à la seule utilité dont tu en auras besoin. Et l'idée, ça serait quand même de pouvoir toujours la resynchroniser, de tenter de faire des updates avec celle de base, etc. C'est tout ce genre de truc.
C'est assez avancé comme besoin, je suppose.
Oui, oui, c'est super niche, mais c'est typiquement le genre de besoin dont on a besoin actuellement à mon taf. Et même très généralement, d'ailleurs. C'est très général. Pour plein de raisons, pour de la sécu. Sans rentrer trop dans les détails du coup, mais peu importe où est-ce que tu travailles, un BFF tu vas attendre en règle générale de la validation des entrées, mais aussi en règle générale des sorties, c'est-à-dire que tu veux pas exposer des champs dont t'as pas besoin, donc tu veux extraire certaines réponses, etc. Donc il y a vraiment besoin d'un niveau de granularité, tu vois, dans cette réécriture et cette surcharge d'une spec OpenAPI déjà existante, ne serait-ce que dans la définition des endpoints, mais aussi la signature des responses.
Et donc c'est enfin, des outils que tu utilises pour faire cette...
Non,
cette
pour le moment, c'est de la R&D, et ça serait plutôt des choses custom, à savoir que, du coup, si je devais décrire en deux étapes un peu tout cas, c'est ce qui m'intéresse dans l'immédiat. C'est vraiment, par exemple, de prendre une spec OpenAPI brute, d'une API que tu ne veux pas entièrement exposer, trouver un outil qui permet de transpiler cette spec OpenAPI dans une substance dont seulement toi as besoin, et enfin trouver un outil open source, qui là pour le coup, enfin même les deux pourquoi pas serait open source, qui serait de la code gen, pour pouvoir générer les premières fondations de ton API, fondamentalement dont tu auras vraiment besoin, quoi. Mais qui serait donc un mashup de plusieurs specs OpenAPI.
D'accord.
À voir, de nouveau, c'est vraiment de la R&D pour le moment. Mais c'est, je trouve, vachement intéressant. Et c'est ce qui me fait m'intéresser à l'écosystème, de tous les pleins de projets open source qui existent déjà, et qui se basent sur une spec OpenAPI pour auto-générer des trucs. On en parlait tout à l'heure, il y a OpenAPI Awesome, qui est pas extrêmement à jour honnêtement, mais qui fait quand même une bonne synthèse de plein d'outils open source qui existent dans le milieu, par exemple OpenAPI TypeScript, qui permet vraiment de générer du coup des types TypeScript en se basant sur des schémas, mais pas que, mais aussi une interface globale qui permettra de récupérer les endpoints exposés par cette OpenAPI. Donc imaginons une interface pass qui est un record qui contient en réalité des routes, qui contient sa méthode, etc., et qui pour telle méthode renverra tel modèle de données, aura tel paramètre, etc. Donc il faut quand même construire tes services autour de ça, tu peux strictement les typer autour de ça, mais malgré tout, lorsque tu démarres, je sais pas, une nouvelle fonctionnalité ou peu importe, l'objectif que j'aurais personnellement, c'est avant toute chose, si j'ai un nouveau ticket, j'ai une migration côté back, une mutation d'un modèle de données, je mets à jour ce package en réalité, parce que si dans un monorepo, ce sera un package, qui viendra lever des erreurs, peut-être à la fois dans mon BFF et dans mon front, en disant, là j'ai une mutation de mes modèles de données, il faut le gérer, ça va casser ici, ou c'est un bloc qui est pas couvert, etc. Est-ce que j'ai vraiment suffisamment, enfin, est-ce que je m'exprime correctement sur cette substance d'interface qui décrit, qui transpile une spec OpenAPI?
Là, tu parles vraiment d'un outil qui permet, ça prend une spec OpenAPI, ça génère des types TypeScript qui représentent complètement l'interface, enfin, l'API de l'API REST, quoi. C'est ce que ça prend comme paramètres, ce que ça retourne, les différents statuts.
Seulement les types. Enfin, du coup, on en parlait tout à l'heure rapidement aussi, mais du coup, ce package-là précisément s'appelle OpenAPI TypeScript.
Oui.
Il existe aussi OpenAPI TypeScript Fetch, qui est en fait plus ou moins un set de fonctions qui accepte un générique, et qui, en fonction de ses entrées, va retourner automatiquement les bons typages si tu lui balances telle route, etc. Dans l'idée, là, actuellement, si tu ne consommes que le type, il faudra malgré tout toi-même avoir donné à tes services, à tes fonctions, à tes fetchers, tes services, peu importe, je sais pas quoi,
les mettre dans ton code. La partie du code qui fait la vraie requête HTTP derrière.
Exactement, oui. Totalement. En fait, tu n'utilises pas de fetcher, tu utilises un fetch natif, peu importe.
Oui. Ou XML, HTTP request quand on a un vrai.
Du SOAP, allons-y.
Mais de ce que je comprends, moi je vois surtout un très gros intérêt pour les développeurs front-end. Parce qu'on parle de BFF, mais personnellement j'ai pas créé de tels services avec plein d'OpenAPI parce que derrière il faut mettre en lien plein d'API REST. Mais je vois très bien l'intérêt que ça peut avoir si on a une API qui est développée dans un autre langage que le JavaScript et qu'on veut quand même partager des types. Parce qu'il existe des outils comme TRPC, comme plein d'autres choses. Par exemple, il y a beaucoup de développeurs qui maintenant veulent créer leur API directement dans Next.js. Ils utilisent Next pour développer le front. Ils créent leur API aussi dans le dossier root, anciennement, maintenant ça a été renommé avec l'AppRouter, mais de Next.js. Et avec TRPC, ça permet de partager des types entre le front-end et le back-end. C'est que du TypeScript partout, donc c'est plus facile. Mais
TRPC, c'est vraiment du RPC, je crois que c'est pas vraiment. Comment dirais-je? C'est vraiment from scratch, on va dire. Enfin, je veux dire. L'idée, c'est aussi de pouvoir migrer un projet existant qui ne sera pas forcément strictement typé sur ses contracts API ou ses signatures, et de vraiment ajouter ce layer cette surcouche de strictness, de rigueur, quoi.
Oui.
En surcharge.
TRPC, c'est vraiment un outil qu'il faut utiliser de bout en bout, sinon ça marche pas, quoi.
Et il faut aussi que ça soit du coup un API Node.js, quoi.
Oui. L'intérêt de l'OpenAPI, du coup, c'est que ça marche avec n'importe quoi, c'est une vraie standardisation. Quel que soit l'écosystème, quel que soit le front, quel que soit le back-end ou les back-ends, c'est censé permettre une uniformisation.
Totalement. Et cet aspect dans les générateurs que vous trouverez sur Internet et tous les officiels de OpenAPI, il y aura cette, ce comment dirais-je, cet état du générateur qui est-ce qu'il est compatible avec du multiserveur ou pas. C'est-à-dire est-ce qu'il accepte une multitude de specs OpenAPI en entrée. À savoir qu'il y a un risque de surcharge du coup, si deux specs OpenAPI décrivent la même route, ça peut être un peu risqué quoi. Et tout ce genre de trucs, c'est des complexités qu'il faut prendre en compte avant. Je suis quasiment sûr qu'il y a des parseurs là-dessus. J'ai jamais utilisé exactement le multiserveur, j'ai déjà tenté de générer des trucs en Spring.
D'accord.
Mais malgré tout, enfin voilà, c'est des sujets à mon avis. Enfin, c'est vachement intéressant. Et c'est cette idée de. Enfin, moi, même encore plus, je trouve que l'aspect OpenAPI, sans rentrer dans l'idée de CodeGen, etc., mais plus de réflexion de projet, de gestion, d'estimation dans le temps, de nouvelles fonctionnalités avec différentes équipes, enfin, même si vous travaillez dans la même équipe, c'est un moyen de communication. C'est-à-dire que c'est un prisme qui relate l'état d'un ticket, par exemple, côté back et côté front, en règle générale, et c'est dans mon taf actuel, c'est ce qui se passe, le front ne va démarrer sa tâche que lorsque le back l'aura déjà implémenté. Sauf que je trouve que c'est dommage, parce que du coup déjà on travaille pas sur les mêmes sujets en même temps, du coup on est entre guillemets en retard, entre très gros guillemets, parce que du coup bah, c'est juste comme ça qu'on était priorisé les choses, mais aussi parce que si on avait une signature stricte, bah on pourrait mieux estimer déjà ce qu'il y a à faire côté front, et ça permettrait, enfin ça éviterait aussi des allers-retours où bah, parfois il y a des mutations qui n'ont pas été attendues, donc on a des resizing, etc. Mais ça permettrait surtout de faire les tâches en même temps, et aussi idéalement, de mettre à jour nos serveurs de mock, nos tests end-to-end, en prévision de ces différentes évolutions-là, et donc en gros être synchronisé quoi. Et si on a vraiment des outils qui nous permettent, via la mutation de cette spec OpenAPI, de auto-générer nos typages, et de propager tous les breaking changes dans nos codebases, honnêtement, la complexité de nos tickets est largement réduite. Mais, enfin, largement réduite.
Par un facteur 1 million.
C'est une généralité. Voilà, c'est ça. La suite de Fibonacci en sueur. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on estime. T'as pas trop l'expérience de cette agilité-là, mais. Enfin, bref. Mais ça serait malgré tout un gain de confiance aussi quant à la stabilité de notre appli et son coverage, quoi. Enfin, voilà. C'est mon avis.
Yes. C'est intéressant. Et par rapport à ça, c'est vrai que cette idée pour les développeurs, principalement front, parce que j'ai quand même enfin, je suis surtout développeur front, donc je m'intéresse principalement à ça. Mais sur Twitter, j'ai pu voir des gens discuter du fait qu'il faudrait que dans leurs équipes, avant de développer une fonctionnalité pour de vrai, côté back, côté front, on se mette d'accord sur ce que doivent recevoir les routes de l'API, ce qu'elles retournent. Et derrière, les développeurs front peuvent développer en mettant en place un système de mocking avec API mock, MSW, qui permet directement de faire ces requêtes HTTP. Parce que c'est important, il y a des problèmes de headers, il y a des problèmes de réponses qu'il faut parse. Donc faire sa requête HTTP day one, dès le départ, plutôt que de mock ça de manière dégueulasse en ayant des données statiques dans son front ou ce genre de truc. Avec un serveur de mock, après, dès que le back est implémenté, il n'y a plus qu'à retirer le mock et on fait les requêtes sur le vrai back et ça roule. Zéro problème.
Carrément. À savoir que ce mock dont tu parles, tu parles de mock statique, donc dans l'idée, j'imagine que tu penses à le retour d'un service que t'aurais, auquel t'aurais enlevé le fetch et tu renvoies juste une donnée statique tant que le truc n'est pas implémenté.
Seulement, oui.
C'est que quand tu, du coup, intègres un mock, mais même, bon, ok, même s'il renvoie de la donnée statique ton truc MSW, bon, ok. Si c'est vraiment des lookups ou des trucs statiques, bon, bah, tu renvoies des trucs statiques, ça fait sens, quoi.
Ouais.
Mais c'est que tu peux le réutiliser. J'en sais rien. Pour une raison X ou Y. Le back est pas stable dans un moment précis et t'as besoin de faire une démo, t'as besoin de tester un truc avant de faire une release, bon bah hop, t'itères sur ton mock, mais ne serait-ce que tes tests d'intégration, tes tests end-to-end, etc. Ça dépend de la capacité que t'as à gérer tes tests flaky, c'est-à-dire défauts positifs ou peu importe, sans trop passer de temps sur cette définition là que je ne maîtrise pas d'ailleurs, mais ça te permet d'être plus sûr et confiant dans ce que tu vas livrer quoi. Après, du coup, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'il y a des risques. En tout cas, j'en vois personnellement, à savoir que ben, l'aspect OpenAPI, c'est comme n'importe quoi. Ça peut faire, il y a plein de choses qui peuvent être cool et ça peut être bien fait, mais tout ce qui peut être bien fait peut être mal fait. Et c'est pas rare du tout, genre vraiment pas, de tomber sur des swaggers qui sont pas typés, qui décrivent juste des entrées de route, et encore. C'est-à-dire que bah du coup en fait soit souvent l'excuse c'est bah notre donnée elle est dynamique. C'est-à-dire que tu peux pas la prédire.
On peut retourner soit un chien, soit un chat, soit une voiture, soit un portable.
Voilà, bah du coup, ça s'appelle un oignon. Ou à la limite, enfin bref.
Un oignon, rouge, jaune.
Un oignon, voilà. Et ça s'appelle any off. One off. Enfin, en gros, tu peux vraiment retourner n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux même typer comme quoi un arrêt peut être un tuple, ou peut. Enfin, peu importe. Tu peux vraiment tout strictement typer quasiment. Je suis pas non plus un expert, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des use cases un peu relous. Le seul truc un peu chiant parfois, c'est vraiment les fichiers, etc. Ça peut être un peu chiant. Je balance souvent des binaires, des octets binary, bref. Mais du coup, le gros souci de ces outils de code generation, c'est que ça va pas créer de la data. Tu ne peux que transpiler une substance qui est déjà en place. C'est-à-dire que tu peux pas prédire, tu peux pas anticiper. Ça ne peut pas augmenter la maturité d'une API, c'est ça, voilà.
D'accord.
C'est-à-dire que tu peux pas créer de rigueur sur un truc qui ne l'est pas. Donc il faut en avoir conscience, et lorsque tu fais des refactors de grande envergure sur plusieurs API, sur des centaines d'endpoints, plusieurs centaines d'endpoints, ben avant même de regarder si c'est quelque chose que tu veux faire, c'est de regarder quelle est la qualité des specs OpenAPI que tu consommes, quoi.
À partir de ça, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que dans le meilleur des mondes, il faudrait générer une spec OpenAPI à partir de son code? J'ai vu pas mal d'outils, par exemple pour Adonis, pour Laravel, pour Django, qui permettent de faire de l'analyse du code et à partir du code, générer une spec OpenAPI. Les repos sont plutôt bien stars, donc j'ai l'impression que pas mal de gens utilisent ça. Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux se servir de la spec OpenAPI comme d'une spec, c'est-à-dire quelque chose qu'on suit quand on fait l'implémentation? Donc que l'implémentation doit se conformer à la spécification. Quel est ton avis de grand Manitou?
Je suis pas un grand Manitou, au contraire. C'est une très bonne question. Et je pense que la réponse de juriste, ça dépend. J'aurais tendance à te dire que tout dépend de comment tu as conçu ton API dans l'état actuel des choses. En fait, ça dépend de si tu me parles de gérer un problème de rigueur dans la définition d'une spec OpenAPI déjà existante, ou si tu me parles de la création d'un nouveau projet. J'aurais tendance à dire que sur un nouveau projet, je n'ai jamais vraiment en réalité bossé à 100% dans une équipe back sur la création d'une nouvelle API. C'est toujours des trucs côté BFF en général. Mais à savoir que lorsqu'on réfléchit à ce genre de problématique, on se demandait exactement quelle allait être la gueule de ce qu'on allait exposer, quoi. Et ce truc-là, littéralement, peut être transcrit dans une spec OpenAPI. C'est-à-dire que j'aurais plutôt tendance à dire que tes équipes métiers, tes PO, peu importe, tes managers, etc., devraient arriver vers toi avec un besoin fonctionnel, mais aussi, peu importe qui transpile ce besoin fonctionnel, mais avec une spec OpenAPI qui décrit les attentes et qui permet de se mettre en lien avec, malgré tout, le métier qui va consommer cette spec-là, même s'ils n'ont pas forcément de connaissances techniques, mais tu sais malgré tout que t'as besoin d'un endpoint pour créer une entité, t'as besoin d'un endpoint pour enlever une, etc. Il y aura des mutations, etc. Donc, en principe, j'aurais même tendance à te dire, est-ce qu'il n'est pas possible d'automatiser dans une CI/CD le fait que pour une API donnée, elle relate d'une autre spec OpenAPI donnée, pour vérifier que tu es forcément synchronisé entre ta spec OpenAPI source et l'état actuel de ton serveur. Je sais pas. J'imagine que c'est je sais pas trop comment ça pourrait se transpiler techniquement dans le CI/CD. Est-ce que tu autogénères des tests end-to-end qui permettraient de vérifier ça? Je sais pas. En tout cas, je pense que dans une...
Ça veut dire que tu voudrais un outil qui permette de vérifier que l'implémentation est conforme à une spec OpenAPI? C'est ça ou j'ai pas du tout compris.
Si vraiment on mettait dans le workflow de livraison en prod ou peu importe, dans le workflow de fonctionnement d'une équipe en interne, qu'elle soit API front ou quoi, on mettait sur un piédestal l'aspect OpenAPI comme faisant foi de l'état de notre application, c'est-à-dire qu'avant même qu'on ait à réfléchir de ce qu'on veut faire, on sait que notre application elle doit être comme ça à la fin d'un sprint ou à la fin d'une tâche, etc. Je pense que c'est quelque chose de faisable. Après, je dois me fourvoyer, j'en sais rien. Et ça, c'est une idée qui me traverse l'esprit, j'y avais jamais pensé avant d'en discuter avec toi dans l'immédiat. Mais
la magie du direct.
Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est censé donner un... L'idée de ta spec OpenAPI, en règle générale, d'ailleurs, tu peux l'importer dans n'importe quel outil de DevOps, dans du cloud ou quoi, par exemple de l'API Management, de la PIM sur Azure, quand tu dois exposer des endpoints sur une Founder ou peu importe. Si ta spec OpenAPI ne relate pas de la réalité, t'auras un problème en prod en fait, hein. Parce que c'est à dire que soit t'exposes un endpoint qui ne devrait pas, soit t'exposes un endpoint qui n'existe pas, et vice versa.
Ouais.
Donc malgré tout, j'aurais tendance à dire que oui.
Et tu partirais plus du fait qu'il faut que l'OpenAPI soit une spécification que le code doit respecter. Et
ouais.
Ça me fait penser à quelque chose que j'avais vu dans Adonis JS. Ils ont un test runner qui s'appelle Japa. Et je crois que
ouais.
Japa a un module qu'on peut installer qui permet de vérifier que quand on fait une requête, eh bien, elle suit bien une OpenAPI. J'avais vu ça, c'était. Je m'en suis pas servi, mais j'avais vu ça, c'était assez impressionnant.
Alors.
Je pourrais peut-être le retrouver, mais en
bah,
gros.
Ouais. Japa API Client.
Ça pouvait.
Mais c'est-à-dire qu'elle, quand tu dis elle suit l'aspect, même le modèle de données en entrée, c'est-à-dire il y a une validation en runtime ou.
Je pense que c'était plutôt le retour, à moins que je dise
d'accord.
des bêtises, mais c'était pour vérifier que le retour d'une requête qu'on faisait était bien conforme à ce que l'aspect OpenAPI définissait.
Ok. Bah, ça, c'est vachement intéressant. OpenAPI testing, en effet. Configure, plugin, blablabla, schéma, blablabla, 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 is valid response. Ah, d'accord. Donc en effet, apparemment, du snippet de code que je vois, il fait vraiment une requête super test. Et ensuite, il utilise l'assert contextuel à ton test, qui à mon avis doit prendre en compte le route qui a été tapé par super test. Et qui doit se synchroniser. C'est à pousser carrément même. Parce que si ça existe dans Java, ça existe très probablement dans d'autres écosystèmes. Et c'est je sais pas si on peut parler de pattern matching.
On mettra le lien dans la description de l'épisode.
Ouais.
C'est
ouais, parce que c'est sûr que là, c'est un peu dur à décrire. Mais ouais, carrément. Carrément. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu la hype que j'ai actuellement sur ces sujets-là. Savoir aussi que l'OpenAPI permettrait d'autogénérer donc des serveurs de mock. Ça permet d'autogénérer des serveurs, ça permet aussi d'autogénérer des serveurs de mock, en tout cas d'accélérer leur mise en place, pour pouvoir par exemple avoir des default handlers sur l'ensemble de tes routes, ce qui te permet de commencer à écrire des tests end-to-end ou d'intégration sans trop te soucier de certaines features dont tu n'as pas connaissance qui sont nécessaires au bootstrapping de ton application, mais dont tu ne veux pas, dont c'est pas l'objectif de tester ce besoin métier là. Sur des applis déjà existantes, c'est très intéressant d'arriver à cette stabilité-là, parce que sinon c'est un temps fou de. Enfin, imaginons ton appli prend 50 endpoints pour se bootstrapper, ce que je ne conseille à personne. Mais bref, ça te permet de quand même accélérer les choses, de tester, de faire du POC aussi. Bref, et ce truc-là s'appelle MSW AutoMock. Ça génère du JavaScript par contre. Enfin bref, je vous invite à regarder. Et donc c'était ma passion actuelle pour l'aspect OpenAPI. Je reviendrai vers vous et vers toi, mon Baptiste, mon cher Baptiste. À propos de tout ça, parce que du coup c'est un sujet d'actu qui devrait pas tarder à vraiment rentrer dans mes prios, à savoir donc un refactor un peu de grande ampleur avec pour objectif de récupérer un peu de strictness sur un projet donc avec une forte legacy. Donc, l'idée étant d'attaquer donc le contract API et le coverage global de mon appli pour ensuite vraiment avoir confiance dans des refactors invasifs et leur détection de régression au runtime. Voilà, voilà.
Rien que ça.
Tu as. Non, mais c'est beaucoup pour pas. Enfin, je veux dire. Voilà, ça sera d'autres sujets et je hâte de vous en parler et hâte de travailler dessus aussi.
Bah écoute, merci à toi, Paul, pour tous tes conseils, ton avis aiguisé sur l'OpenAPI.
Ce ne sont pas des conseils, c'est vraiment juste des retours très basiques. En tout cas, je te remercie, mon cher Baptiste.
Merci
pour,
à toi,
cette
Paul.
Découverte aussi de Japa OpenAPI.
Eh oui. Merci à tous nos auditeurs et à très bientôt.
Allez, see you, ciao, ciao.